Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h. Vous écoutez Radio Lodev, c'est l'émission du bruit dans les feuilles, une émission préparée et réalisée par l'association Paysarbres. C'est Tanguy qui vous parle dans le micro. J'espère que vos vacances furent agréables et que vous avez pu profiter de ce repos estival pour vous reposer et que vous commencez cette rentrée avec joie et bonheur. Et on va commencer tout de suite cette nouvelle émission pour vous dire que voilà, on continue notre collaboration avec la radio. On est toujours très content de venir là et de soutenir finalement l'information locale et la vie rurale dans notre beau pays de cœur d'Hérault. Voilà. Alors ça faisait partie de mes résolutions, j'ai réécouté un petit peu les émissions de radio de l'année dernière et je me suis rendu compte que j'utilisais « voilà » en ponctuation et rarement pour lui donner du sens. Donc je viens de le citer encore deux ou trois fois et ça sera un peu mon exercice de l'année pour m'améliorer en tant qu'animateur radio, d'arrêter de vous seriner ce petit mot qui a peu de sens, voilà. Voilà. Donc c'est un peu mon exercice que je me suis auto-imposé cette année. On va continuer un petit peu sur les grilles qu'on a toujours préparées, à savoir que pour démarrer cette émission, j'aime bien commencer par vous présenter un arbre du pays, un arbre emblématique ou pas, mais en tout cas un arbre qui croît pas très loin de chez nous. Je vous prie de m'excuser par avance du ton un peu catastrophiste que va prendre cette émission. Mais voilà, il y a eu plusieurs choses qui se sont croisées et qui ont fait que finalement, tout au long de ces quelques instants que nous allons passer ensemble, je vais égrener certaines nouvelles et dont certaines ne seront pas des plus joyeuses pour le coup. Donc du coup, la première chose dont je voulais vous parler, mais parce que encore une fois, on essaye de rebondir sur l'actualité. Et ça a encore fait beaucoup parler dans la presse, dans les médias, au café, sur le marché et sur les foires agricoles ou pas. C'est la fameuse spirale du buis. Donc l'arbre dont je vais vous parler, c'est le buis. Et il est bien temps d'en parler parce que vous n'êtes pas sans savoir que suite à l'invasion de cette pyrale, alors la pyrale, pour que tout le monde la connaisse bien et comprenne bien comment elle fonctionne, c'est un papillon. Un papillon qui n'est pas natif de l'Europe, mais qui est arrivé suite à des imports de buis, justement. Des imports de buis qui devaient posséder à la surface inférieure de ses feuilles quelques petites chenilles de ce papillon. On croit qu'il est arrivé en Alsace autour de 2004. Et donc voilà, depuis 2004, ce charmant papillon a complètement dévasté les peuplements de buis depuis l'Alsace jusqu'au Languedoc où elle est présente depuis 3-4 ans. Donc sur le territoire depuis 3-4 ans, on a commencé à l'apercevoir dans les massifs de buis. Alors les larves, les chenilles de ce papillon dévorent la feuille de buis et donc rend l'espérance de vie de l'arbre assez faible et voire même va le tuer sur 2 ou 3 ans. Cette pyrale ne se nourrit exclusivement de buis. Alors je parle bien des chenilles. Les chenilles de la pyrale se nourrissent exclusivement sur le buis. Par contre les papillons, parce que souvent j'ai eu beaucoup d'échanges avec des adhérents ou autres, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont demandé « Oui, mais cette pyrale, on la voit aussi dans le tilleul, on la voit aussi sur d'autres essences, est-ce qu'elle va tout dévorer ?» Eh bien non, en fait c'est la larve du buis, de la pyrale qui dévore les feuilles de buis. Par contre, le papillon, lui, il se nourrit comme d'autres insectes énormément de matière sucrée. Et du coup, le nectar de toutes les essences l'attire comme les autres insectes, voire peut-être même il favorise la pollinisation. Enfin, il fait son travail d'insecte. Et ça n'a pas d'incidence, si ce n'est que peut-être il fait concurrence à d'autres insectes qui se nourrissent aussi de nectar. Et comme il prolifère, c'est toujours le nombre qui est problématique finalement dans cette histoire. Cette pyrale, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, c'est vraiment la question qui revient aussi, et c'est normal parce qu'on a tous des buis auxquels on tient. Sur l'ensemble du territoire, finalement, les scientifiques sont un peu sans solution. Et puis, ben, du coup, un peu comme un nuage de criquet, ce nuage de pyrale. En plus, elle est très féconde, la pyrale. Elle fait parfois plusieurs générations dans une même saison. Et tant que les temps sont chauds, entre le mois de mai et le mois de septembre, cette pyrale va faire de nombreuses générations. Et on se retrouve avec ces nuages, c'est des papillons qu'on voit surtout la nuit, qui sont attirés par la lumière. Et ils se précipitent devant les phares des voitures. Quand on est avec quelques amis pendant les soirées estivales, vous avez pu tous la remarquer. Cette petite pyrale blanche avec les lignes noires. Et donc voilà, bah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les peuplements de buis? C'est des vraies questions et c'est des questions bah, qui vont impacter profondément nos paysages. Je pense en l'occurrence au paysage du plateau où le buis est omniprésent. Donc c'est un peu sans appel, si vous voulez, sur l'ensemble de la population sauvage de buis, après le passage de la pyrale. Quand la pyrale n'a plus de buis à dévorer, et là on commence déjà à le ressentir en Lot-et-Vois, c'est-à-dire que cette année, moi j'ai eu l'impression et la sensation que les papillons étaient moins nombreux finalement que l'année dernière, parce que les populations de buis, elles ont complètement diminué, voire disparu, sur tous les flancs qui entourent notre jolie petite ville. Alors que certains particuliers ont réussi à lutter parce qu'ils avaient des petites taupières, hein, vous voyez ces buis en alignement qu'on retrouve dans la tradition du jardin à la française. Il y a des traitements, enfin des traitements insecticides qui sont pas tous sans impact sur le reste de l'environnement, ou bien des traitements un peu plus doux à base de bacille de Thuringe, qui est un champignon et qui peut un petit peu combattre ça. Sur les moyens de lutte, je vous renvoie aussi vers notre page Facebook sur laquelle on avait envoyé un lien sur un article très intéressant d'un groupement suisse qui ont étudié des moyens autour de l'homéopathie qui ont l'air de porter leurs fruits. Donc voilà, pour un ou deux buis qu'on a dans nos jardins personnel, il est possible d'adopter des traitements et de sauvegarder quelques buis de ce nuage dévoreur de la pyrale. Mais pour l'ensemble du territoire, c'est beaucoup plus problématique. Alors pour ce qui est du plateau, on en voit pas mal de traces sur les contreforts. J'ose espérer que le climat du Causse est un peu rude et que la pyrale ne va peut-être pas y faire bombance comme elle a fait dans les autres territoires et qu'on sauvera un petit peu ce buis. Sinon, quel avenir on peut espérer pour lui? C'est ça qui est un peu complexe dans la mesure où il a complètement marqué nos territoires. Alors pourquoi est-ce qu'il est si marquant ce buis? La première chose, c'est qu'on est sur un territoire de tradition pastorale et qu'il y a eu énormément de pâturage qui a façonné finalement pendant des siècles et des siècles les paysages tels qu'on les connaît aujourd'hui. Hein. C'est le cas du Causse, mais même les contreforts ont été beaucoup pâturés. Et le buis, parmi ses particularités, il est absolument impropre à la consommation des herbivores. Et du coup, il a perduré, voire même dans chaque buisson de buis, il y a un petit peu des micro-forêts qui sont nées. Et alors c'est très marquant hein, sur quand on voit l'attaque de la pyrale, c'est-à-dire que le buis finalement il va mourir hein, parce qu'on cette pyrale l'empêche de faire de la photosynthèse des fois pendant 2 ou 3 années consécutives et un arbre c'est son moteur, sa nourriture elle se fait par les feuilles. Si vous enlevez systématiquement toutes les feuilles d'un arbre, finalement vous allez finir par le faire succomber. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer pour les buis. Alors espérons que les particuliers qui en ont sauvegardé quelques-uns chez eux et espérons que le buis trouvera une renaissance, mais c'est sur des échelles de temps qui nous échappent. Vous n'êtes pas sans savoir que le buis est une essence qui pousse tout doucement, et du coup, avant qu'on récupère les paysages tels qu'ils étaient, il faudra sûrement qu'il s'écoule plusieurs générations d'humains pour qu'on retrouve un petit peu cette essence emblématique. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. C'est un peu catastrophiste hein, comme entrée en matière, et encore une fois, je vous prie de m'excuser, mais enfin, c'est ainsi va l'actualité de notre petit territoire et du monde plus largement, avec ces échelles mondialisé et qui crée certaines perturbations dans les écosystèmes locaux. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du buis quand même? Parce que c'était un arbre qui avait son importance parce qu'il avait finalement beaucoup d'usages. Je vous renvoie sur la société Buxor qui est à Saint-Maurice-de-Navacelles et qui travaille beaucoup justement sur le buis parce qu'ayant eu connaissance de son apport. C'est un amendement. C'est un amendement majeur qui a beaucoup servi en engrais pendant très longtemps. voilà, ce buis servait, donc on coupait des rameaux de buis et puis on s'en servait pour souvent en litière pour les animaux, et ensuite cette litière elle était amenée au champ. On disait que le buis amendait sur 3 ans, la première année avec ses feuilles, la deuxième avec son écorce et la troisième année avec la dégradation de son bois, et du coup c'était un amendement organique sur le long terme. Donc on a beaucoup utilisé le buis à cet usage. Voilà, après le buis, ça fait partie aussi des essences qui restent vertes tout le temps, et donc qui avaient tout un folklore aussi lié à cette vie permanente, hein, dont je vous ai déjà souvent parlé. Donc c'était aussi, au-delà des usages tels que je vous en ai parlé, de l'engrais du sol, mais aussi du bois, hein, les sculpteurs, alors là, ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Si vous avez des buis qui ont été ravagés par la pyrale, faites un bon geste, coupez-les et mettez-les à sécher dans une cave, et vous aurez un bois d'œuvre absolument fabuleux. Mais ça prend longtemps, hein, avant que le buis soit prêt pour être utilisé pour le travail du bois. Il faut parfois 3 à 5 ans de séchage. Donc là encore, c'est une opportunité de mettre un peu de bois d'œuvre de côté. Voilà, tout en espérant ben, que le plateau, par son climat très particulier, se préserve un peu de la pyrale et qu'on garde quand même ce végétal emblématique dans nos territoires. Voilà, c'était ma petite présentation du buis et de sa charmante prédatrice, la pyrale. Voilà, après cette entrée en matière, je vous propose de faire une première pause musicale avec une chanson qui va nous ouvrir sur la suite de cette émission, qui s'appelle « Plus rien ». On reste un peu dans la même thématique, vous allez écouter. C'est un groupe du Québec qui s'appelle les Cowboys Fringants. On écoute et on se retrouve après ça.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi, je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux, ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique qu'ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. On retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère hier et mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Plus rien, les cow-boys fringants. Alors voilà, on continue dans la joie et la bonne humeur avec cette chanson qui nous ouvre un petit peu, qui nous introduit sur le prochain sujet dont je voulais traiter avec vous. Une fois n'est pas coutume, en règle générale à Paysarbre, on essaye de mettre en avant les initiatives innovantes, les initiatives qui nous semblent donner du sens à un avenir commun pour les vivants de cette terre, qu'ils soient humains ou non humains. Et puis là, ben finalement, encore une fois, l'actualité nous tombe dessus et je vais faire un petit détour vers la politique politicienne qui a eu, finalement, il y a eu un événement cet été, il y a eu la démission de notre ministre de l'écologie, Monsieur Hulot. Et ça a fait un petit peu un espèce de tsunami tout à fait relatif, mais un tsunami médiatique. Et j'avais un petit peu envie de rebondir là-dessus et de poser les bases et ben de ce qu'il faudrait faire pour réagir. Et j'ai eu envie de partager avec vous un son que je viens de découvrir d'un chercheur. Alors c'est pas du tout un chercheur, c'est pas du tout un écologue. C'est un chercheur qui a pris la parole plutôt d'une place de citoyen, de parole de la société civile. Il s'appelle Aurélien Barrault et il a co-signé avec Juliette Binoche et quelques centaines de célébrités une tribune qu'il a fait passer à la presse et qui a été éditée par le journal Le Monde et qui a fait qui a eu des répercussions au-delà même de notre petite France, si je puis dire, dans le sens où il y a des signataires assez célèbres qui se sont joints à cet appel un petit peu du monde entier pour que soit considérée de manière prioritaire l'écologie dans les programmes politiques. Alors voilà, je pense que des fois, il faut savoir prendre la parole et prendre des positionnements qui soient clairs. Et dans cet appel, finalement, Aurélien, que vous allez entendre, donc Aurélien Barrault, de métier, il est astrophysicien, il est enseignant-chercheur, donc il parle plutôt à ses étudiants du grand monde, à savoir les trous noirs, la galaxie et toutes ces choses qu'on ne connaît pas bien. Et puis ben là, voilà, il a pris la parole pendant une dizaine de minutes, pendant un festival qui s'est tenu cet été. Et je vous laisse écouter ce son. Je suis pas forcément d'accord avec toute l'analyse. Je vous propose de faire quelques commentaires à la suite de cette petite interview qui dure une dizaine de minutes. On se retrouve après. On écoute Aurélien Barrault.
C'est un peu triste en fait parce que ce qu'on évoque est assez tragique en réalité. Alors c'est vrai que quand on m'a proposé de venir, je me suis tout de suite imaginé faire un petit exposé scientifique, comme tu viens de m'y enjoindre à nouveau, voire philosophique, enfin ce que je sais un peu faire. Et finalement je vais un peu vous piéger parce que c'est pas du tout ce que je vais faire. Je vais utiliser mes 10 minutes pour vous parler de politique essentiellement, parce que je crois que face à l'urgence, on n'a plus le choix en réalité. La situation, elle est dramatique à beaucoup de niveaux différents. Elle est dramatique, on le sait, c'est maintenant bien médiatisé, pour ce qui concerne le changement climatique, le dérèglement climatique qui ne fait plus question et dont l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, est actée. Elle est aussi dramatique, et là je peux peut-être faire un point scientifique, du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas durablement possible. En physique, dans mon domaine, on appelle cela une instabilité. Et un système instable, c'est un système qui va crasher, automatiquement. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre, ce qui est un peu contrariant. La situation est au moins aussi dramatique, on en parle moins en ce moment, du point de vue de la pollution, de l'eau, de l'air, des sols, et je dirais que les effets sur la biodiversité sont comparables, voire supérieurs à ceux du réchauffement climatique. Et enfin, la situation est dramatique et on en parle beaucoup moins en ce moment, alors que c'est tout aussi grave, de par l'étiolement, disons l'atrophie, si vous voulez, des espaces de vie. Les animaux n'ont simplement plus de lieu pour vivre et par conséquent, ils meurent. Alors évidemment, ceci pose un certain nombre de questions et je voudrais juste donner un exemple parmi une centaine d'autres qu'on pourrait trouver, des conséquences que cela aura juste sur l'humanité. Et on reviendra bien sûr à la question centrale des autres vivants par la suite. Un effet secondaire, donc peut-être d'ordre inférieur. On fait en ce moment face à une crise en Europe, une crise majeure, avec cet afflux de réfugiés, qui, à mon sens d'ailleurs, est traité de façon absolument scandaleuse, puisque nous n'accueillons pas essentiellement ces pauvres gens qui meurent devant nos frontières closes. On parle de quelques centaines de milliers de réfugiés. Or, on sait aujourd'hui, ce sont des chiffres officiels, hein, pas venant d'hurluberlu alarmiste, que nous aurons entre 200 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques dans 30 ans. Pas dans 5 siècles, dans 30 ans. Ce que, si tout se passe bien, nous allons vivre quand nos enfants seront dans la force de l'âge. Que voulez-vous qu'il se passe ? Ça ne peut pas être autre chose que la guerre. Je veux dire, ce n'est pas ici une sorte de fantasme catastrophiste. C'est une analyse géostratégique élémentaire. Nous sommes donc en train de décider de léguer à nos enfants un monde en guerre. Moi, j'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde. De la possibilité, en tout cas, d'une fin du monde. Oh, bien sûr, hein, en tant qu'astrophysicien, je sais bien que la Terre continuera de tourner autour du Soleil après tout cela. Mais enfin, ce qui fait la spécificité de cette planète, ce qui fait qu'on a envie de se battre pour elle, c'est précisément cette diversité du vivant autour de nous. C'est précisément là que se trouve sa beauté, son unicité et aussi sa fragilité. Sans cela, elle n'aurait finalement plus aucun intérêt et plus aucune spécificité. Alors, on m'objecte parfois que ce n'est pas la fin du monde, ce n'est que la fin de l'humanité. J'ai très souvent cette objection. Je ne la comprends pas. D'abord parce que la fin de l'humanité n'est heureusement pas encore actée. Ensuite, parce que ça serait quand même pas un détail. Aucune guerre jusqu'à maintenant n'a tué l'humanité et pourtant chacune a été tragique. Et enfin, parce que c'est oublier un peu vite les 7 millions d'espèces animales avec lesquelles nous partageons ce petit îlot d'univers et qui sont stricto sensu dans cette aventure, nos otages. La deuxième objection récurrente consiste finalement à dire qu'il est trop tard. Et je ne la comprends pas non plus. Il est évidemment trop tard pour que rien ne se soit passé. Il est évidemment trop tard pour qu'il n'y ait pas des conséquences dramatiques. Il y en aura. Elles sont déjà à l'œuvre. Pour autant, il n'est évidemment pas trop tard pour éviter que ce soit encore pire. C'est exactement ce qui se passe dans chacun des grands défis auxquels nous avons été confrontés. La dernière guerre mondiale a fait 60 millions de morts. C'est une tragédie absolue. Enfin, s'il y en avait eu 400 millions, ça aurait été encore pire. Donc, il n'est évidemment pas trop tard pour éviter le drame. Il est trop tard pour éviter le drame, mais il n'est pas trop tard pour éviter une amplitude, une ampleur, et un déversement du désastre encore plus conséquent encore que celui-ci. Alors pour moi, la question cardinale à ce stade, c'est de se demander quand a été commis la faute. Pas la faute au sens théologique, hein, mais la faute au sens écologique. Quand sommes-nous partis sur ce que le philosophe Gilles Deleuze appellerait une ligne de mort ? Et je crois que la réponse est assez inquiétante. Parce qu'en réalité, ce n'est pas récent. Ce n'est pas l'apanage de la modernité ou de l'ère industrielle. On a aujourd'hui des documents étayés, des études scientifiques très sérieuses, qui tendent à montrer que dans un passé très reculé, quand nous étions encore chasseurs-cueilleurs, dès lors qu'une zone du globe était colonisée par les humains, il y avait une extinction massive de la macrofaune. Je veux dire, bien au-delà des simples prélèvements associés à l'alimentation. Donc ça, c'est un peu contrariant, parce que ce qui semble se dessiner ici, c'est un comportement qui est finalement endémique à ce que nous sommes. Ce qui signifie que l'enjeu n'est pas de renouer avec un passé fantasmé qui n'a jamais eu lieu, pendant lequel nous aurions été dans une sorte d'équilibre bienfaisant avec la nature. L'enjeu est d'inventer un devenir radicalement autre. Cet enjeu est immense. Je ne sais pas si nous saurons relever ce défi, mais je crois que nous serions plus coupables encore de ne pas le tenter. Voilà. C'est la raison donc pour laquelle On a publié il y a quelques jours un appel qui a été bien relayé par le journal Le Monde et par beaucoup d'autres médias, avec 200 personnes qui sont des scientifiques, hein, plusieurs professeurs au Collège de France, membres de l'Académie des sciences, des artistes, des intellectuels, des acteurs. Cet appel ne dit pas grand-chose, parce qu'il est très court, on le voulait percutant, mais il dit quand même quelques petites choses pas totalement négligeables. La première chose que nous avons voulu marteler, c'est ce que tu as rappelé en introduction, c'est qu'il faut que la réception du sérieux change de camp. On ne peut pas continuer à faire comme si la pensée écologiste était l'apanage de quelques doudingues Et le dogme d'une croissance immodérée était l'apanage des gens sérieux. C'est exactement l'inverse. Voilà. Il faut que cette idée pénètre la société. Aujourd'hui, prôner une croissance continue revient exactement à dire « on est face au gouffre, accélérons ». On ne peut pas continuer comme ça. Ce qui ne remet pas en cause les bienfaits réels qu'il y a eu au niveau de la médecine, de l'hygiène et de l'accès à l'alimentation des pays pauvres dernièrement. C'est une question complètement différente. Le deuxième point que nous avons souhaité souligner, c'est qu'il faut des mesures politiques, concrètes, coercitives, impopulaires, s'opposant à nos libertés individuelles. On ne peut plus faire autrement. Ça, c'est un sujet débattu. Peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ça, mais ce que je crois fermement, c'est que l'appel à la responsabilité individuelle est nécessaire, mais insuffisant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on va à la catastrophe. Les négationnistes sont de plus en plus rares, ils ne sont pas crédibles. Et pourtant, rien ne change. Oui, nous sommes faibles, nous sommes ainsi faits. Si nous sommes en retard et au volant d'une grosse voiture, sur l'autoroute, on roulerait presque tous à 200 km/h si c'était autorisé. Mais en même temps, nous sommes quand même suffisamment sages pour savoir que l'existence de lois qui nous empêchent de le faire, parce qu'on met notre vie et celle des autres en danger, est nécessaire. Donc on peut simultanément, si vous voulez, être incapable de se raisonner à l'échelle individuelle, ce qui est notre cas, globalement, mais être capable de comprendre que nous avons besoin d'être raisonnés à l'échelle collective. Et donc nous devons exiger des pouvoirs publics des mesures réelles, c'est-à-dire que les discours, la main sur le cœur, maintenant, n'ont plus aucun intérêt, qui sont concrètes et qui sont impopulaires, parce qu'elles vont forcément s'opposer à un peu de notre confort. Cela dit, et je trouve que ce lieu ici est un très bel exemple, ce n'est quand même qu'une perte de liberté apparente. Parce que quand on dit à un enfant, à un jeune enfant, « je t'interdis de casser ton jouet », bien sûr, on entrave sa liberté de l'action dans l'instant. Mais c'est pour qu'il ait précisément la liberté de pouvoir y revenir par la suite et d'y jouer pendant toute son adolescence. Donc il faut aussi redéfinir nos valeurs dans ce geste. Le troisième et dernier point que nous avons voulu souligner, c'est qu'il faut harceler le pouvoir politique pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. Ça ne peut plus être une préoccupation de quatrième niveau, comme c'est le cas jusqu'à maintenant. Ça ne peut simplement plus l'être. Et ça, je crois que c'est très important que nous martelions la nécessité qu'il en soit ainsi. Dans cet appel, signé par beaucoup de personnalités, nous disons explicitement que plus aucun pouvoir politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité n'est aujourd'hui crédible. Voilà. Une formation politique, une gouvernance politique qui ne fait pas de la sauvegarde du monde sa priorité est simplement ubuesque. Nous n'en voulons plus, elle n'a plus aucune légitimité. Voilà le message que je crois la société doit maintenant marteler. Et là, je crois que l'enjeu est très clair pour les décideurs. Soit ils sont, parce qu'ils savent aujourd'hui plus que tous leurs prédécesseurs, les pires lâches de l'histoire, et ils auront une responsabilité sans précédent, soit ils sont les premiers héros. Mais pour être les premiers héros, quelques beaux discours et un peu de greenwashing ne va pas suffire. Il faudra se fâcher, il faudra s'opposer aux lobbies, il faudra prendre des mesures difficiles. C'est très exactement à eux qu'appartient maintenant de prendre cette responsabilité. C'est exactement pour ça que nous avons créé le politique. Le politique sert à ça, à nous sauver de ce type de situation. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien. En conclusion, j'ai vu hier une tribune dans Les Échos. Les Échos, c'est quand même pas exactement un journal anarcho-communiste à tendance écolo, qui expliquait que notre inconséquence écologique était une folie, je cite, et que le comportement actuel de la France qui ne suit pas ses propres engagements est une tartufferie, je cite toujours. On ne peut plus être tartuffe pour ce qui est de l'avenir du monde. On ne le peut plus. Hier, une autre tribune a été publiée dans Libération, signée par de très nombreux scientifiques. Je crois qu'il faut envahir l'espace médiatique et au-delà, il faut le faire, évidemment. Alors l'enjeu, et je conclue sur ces mots, j'aime assez qu'il soit placé sous l'égide d'un nouveau contrat social avec le vivant. La figure tutélaire de Rousseau est assez bienvenue, parce que vous savez qu'il y a deux contrats sociaux chez Rousseau. Il y a celui par lequel, en quelque sorte, le peuple s'aliène dans l'autorité du souverain, et il y a celui par lequel le peuple se fonde en tant que tel. Et c'est ce qu'évoquait Benjamin en introduction. Je crois qu'aujourd'hui, le défi, c'est bien sûr de déconstruire un certain nombre de nos valeurs et de notre acharnement technocratique, mais c'est aussi de repenser ce concept de peuple au seul sens qui est aujourd'hui véritablement un avenir, c'est celui de la grande tribu des vivants. Merci.
Et oui, merci Aurélien Barrault pour cet éclairage, pour cette passion à défendre ses idées. Je ne vais pas forcément tout valider dans le propos, dans les propos qu'on vient d'entendre. J'aime l'idée de cette tribu vivante, de l'ensemble du vivant, même si dans le propos, il y a une mise en avant de l'humain et des animaux, et donc qui pour ma part, il me manque un petit peu la vision feuillue du monde, qui représente quand même plus de 98% de la masse du vivant sur cette planète. Donc peut-être un anthropocentrisme encore là qui ne dit pas son nom. Pour la petite histoire, Aurélien Barrault est aussi un défenseur de la cause animale et des traitements qui sont faits aux animaux un peu partout sur cette planète. Et donc il insiste beaucoup sur le fait que manger de la viande tous les jours ne contribue pas à un avenir durable de cette planète. Et en ça, il a raison, bien sûr. Mais enfin, voilà, je ne vais pas épiloguer parce que c'est vraiment une ouverture sur le débat et je suis aujourd'hui tout seul dans le studio. Alors c'est un peu difficile pour débattre et c'est pas le propos finalement. J'avais envie de partager cette tribune parce que il y a des moments où voilà, ce que je retiens finalement c'est l'interpellation du politique et puis de dire que voilà, la société civile, elle a son rôle à jouer et elle doit maintenant imposer ses vues. Le temps du déni doit finir si on veut éviter le mur. C'est dit, c'est redit, c'est ressassé. Maintenant, il nous faut des actes et des actions et c'est à chacun de se mobiliser auprès des associations. Je fais un petit peu de publicité interne, mais finalement, on vit dans une ville qui a un tissu associatif très dense et on a par ce biais-là des moyens d'agir sur ce qui nous entoure. En tout cas, c'est un peu notre philosophie à Pays Arbres et toute l'équipe. On vous invite à rejoindre le tissu associatif, à vous impliquer dans la vie locale, parce que finalement, encore une fois, il y a des problématiques qui sont mondiales, mais nos actions et nos actes, on ne peut les faire que sur ce qui nous entoure directement, sur ces autres différents, ces autres humains, ces autres êtres vivants non humains avec qui on cohabite tous les jours et avec qui on peut essayer d'inventer un monde. Voilà, tout est à faire, il le dit aussi, on parle d'invention, on parle d'innovation et tout ça ce sont des chemins sur lesquels il faut avancer ensemble. Il y a un collectif d'ailleurs qui est en train de se former sur l'ODEV dont j'ai entendu parler, j'ai pas tous les détails, si vous êtes vraiment intéressé par la question, je crois qu'il y aura une soirée organisée courant octobre, novembre, dans les locaux où nous avons notre association au CLAP. Le CLAP Avenue d'Enfer à l'ODEV, qui est un immeuble qui réunit plusieurs associations et qui a une petite salle en sous-sol où il y a régulièrement des rendez-vous culturels. Restez à l'écoute, informez-vous, il se passe plein de choses à l'ODEV. C'est une ville riche, comme vous avez pu encore une fois le constater. Nous étions présents encore cette année à la fête des associations et on peut voir vraiment que la vie de l'Audévoise regorge d'initiatives citoyennes et donc c'est à nous aussi de faire mur et de pousser vers le politique pour que notre ville soit exemplaire et fabrique l'avenir d'une belle façon. Voilà, j'ai un peu fini sur ce camp du politique pour aujourd'hui. Je vais retourner à mes oignons, m'occuper de mes oignons si je puis dire, et revenir un petit peu vers les vergers. Habituellement il y a une petite chronique qui s'appelle « Ce mois-ci au verger ». Alors mon invitation du mois, elle sera de faire vos semis d'arbres, donc de profiter du ramassage et puis de la dégustation des fruits d'automne pour en sauvegarder les pépins. Alors vous pouvez sauvegarder les pépins des fruits que vous mangez, je pense aux fruits de la saison, pommes, poires, coings, toutes ces semences, même si elles ne seront pas conformes aux fruits que vous avez mangés, vont produire des petits arbres. Alors comment on fait pour semer des pépins et des noyaux ? Eh bien il faut les stratifier, c'est-à-dire qu'il leur faut une période de dormance marquée, et pour ce faire, on va utiliser le sable. Donc vous récoltez, on va prendre l'exemple de la pomme, c'est le plus simple et c'est le fruit du moment. Vous prenez vos pépins de pomme, vous allez les sécher pendant 15 jours, 3 semaines, de manière à ce qu'ils soient bien secs, et ensuite vous allez les poser dans un pot, dans du sable, c'est-à-dire vous mettez une couche de sable, une couche de pépins, une autre couche de sable, et ainsi de suite, et ce pot vous allez l'installer à l'extérieur de la maison, plutôt à un endroit qui ne voit pas la lumière directe du soleil, de manière à ce que la levée soit la plus tardive et qui reste le plus longtemps en dormance. Et puis, ben, une fois que ce pot aura passé l'hiver, vers le mois de février, vous pourrez aller un petit peu enlever les couches de sable et puis vous allez sortir ce petit pépin. Et vous pouvez le mettre soit en pleine terre à l'endroit où vous voudriez obtenir un nouvel arbre, soit vous pouvez faire des semis dans un pot, dans une bouteille. Alors si vous faites ça et que vous faites un semis en bouteille, ne tardez pas pour le replanter. Moi je conseille même de le replanter pendant l'année, c'est-à-dire on fait nos semis au mois de février et puis vers la fin du mois de mars, mi-avril, quand vous avez finalement les deux premiers cotylédons, vous savez c'est ces deux premières feuilles finalement qui entouraient qui était déjà prête dans le pépin. Hein, c'est les premières feuilles de l'arbre, on appelle ça des cotylédons. Elles sont totalement différentes de l'ensemble du feuillage qui va suivre. Et cette famille donc de plantes qui a deux cotylédons s'appelle les dicotylédons. Alors ces deux cotylédons, c'est deux petites feuilles rondes. Et après, l'arbre exprime sa spécificité génétique dans les étages supérieurs de feuilles. Donc vous attendez les deux cotylédons, vous attendez un ou deux étages de feuilles. Et puis très vite, vous allez mettre ce semis au jardin à l'endroit où vous avez envie de voir votre arbre croître. Pourquoi aller vite? C'est pour préserver la racine pivot. Cette racine pivot, finalement, c'est la clé de la résilience. C'est elle qui est en capacité, c'est une racine primaire qui est déjà roulée dans le pépin et qui va pouvoir aller explorer l'ensemble du sol et ce, beaucoup mieux qu'une racine que j'appelle de remplacement suite à des mutilations et tout ça. C'est pour ça que je conseille toujours de planter des arbres jeunes. Mais là, c'est encore mieux. Faites vos semis, plantez des pépins, plantez des noyaux et arborez votre environnement. C'est une belle façon d'obtenir des arbres. Alors, vous allez me dire, on n'est pas sûr d'obtenir les fruits qu'on aime. Non, c'est vrai. Mais derrière, vous connaissez une chouette association qui peut vous apprendre à greffer ces petits arbres et du coup à obtenir des variétés fruitières qui vous conviennent. Voilà, c'était mon petit mot ce mois-ci au verger. Faites des semis, plantez des arbres. Voilà, on peut même semer des espèces qui ne sont pas directement comestibles. Je pense particulièrement au Pyrus spinosa, qui est un petit poirier qu'on retrouve beaucoup dans la ruffe, qu'on retrouve sur le plateau. Le Pyrus spinosa, il porte des grosses épines, il fait des poires absolument immangeables. Par contre, il est très résistant à la sécheresse. C'est vraiment pour moi un porte-greffe d'avenir dans les années qui vont arriver et les sécheresses qui risquent d'être récurrentes. Donc, essayez de planter dans tous les cas des pépins que vous avez récoltés localement, d'arbres qui ont une connaissance et une mémoire climatique et une mémoire de ce qui vient de se passer sur le territoire. Voilà, les végétaux, ils sont en perpétuelle adaptation. Et donc, utiliser du matériel végétal local, c'est primordial pour faire des plantations qui soient durables dans le temps et qui ne demandent pas d'être assistées. Voilà, c'était mon petit mot sur ce mois-ci au verger. J'enchaîne avec l'agenda de Paysarbres pour les semaines à venir. Voilà, on a été très mobilisés sur diverses foires. On a participé donc à la fête des associations ici, à la fête des associations à Fabrègues. Alors là, ça me demande une petite parenthèse sur Fabrègues. Pourquoi je parle de Fabrègues? C'est parce qu'on a été contacté par le Conservatoire des espaces naturels pour accompagner l'installation d'un verger collectif sur la municipalité de Fabrègues. C'est un super projet. On est très heureux d'avoir été contacté pour ça et de mener ça à bien. Le projet est en marche, c'est-à-dire que la parcelle est identifiée. Elle est juste à côté d'un projet de jardin collectif au cœur de la ville de Fabrègues et juste à côté, donc voilà, il y avait une parcelle qui appartient au Conservatoire des espaces naturels et ils avaient l'envie de créer un lieu qui soit un lieu de rencontre et de jardin autour de l'arbre, mais aussi de la biodiversité, d'une augmentation des écosystèmes. Enfin voilà, un verger qui soit vivant, qui soit un ensemble d'espèces variées. Et tout ça, on va le fabriquer ensemble avec les habitants de Fabrègues et des environs qui ont envie de s'investir sur ce projet. Si jamais vous êtes dans la région et que vous êtes intéressé par ce type de projet, que vous connaissez des gens, même sur le Montpelliérain, qui ont envie d'aller vers ce verger collectif de Fabrègues, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Je vous donnerai tous les contacts à la fin de l'émission. Faites-nous passer un petit mail et on vous mettra en copie là où on en est. Il y a des réunions qui viennent. Normalement, les premières plantations vont avoir lieu dans le courant de l'hiver. Voilà pour dire, c'est pourquoi on était sur la journée des associations à Fabrègues, pour faire connaître ce projet qui est vraiment sympathique et que nous soutenons et que nous allons accompagner pendant les premières années, le temps que ce verger soit autonome et que les gens qui le créent et l'entretiennent le soient aussi. Voilà, toujours de la transmission. Alors, on va être présent aussi sur le festival Sève à Montpellier. Donc ça, c'est le week-end qui vient, là, du 21 au 23. Sève, ça se situe, alors c'est à Gramont. Vous voyez, Gramont, c'est un petit peu à l'extérieur de Montpellier. C'est un grand domaine avec un grand parc. Et c'est un festival qui est initié par un collectif de paysagistes et puis d'entrepreneurs du paysage. Et donc, ils font des mises en scène végétales. Et je crois qu'il y en a 9 ou 12, je ne me rappelle plus bien. Donc, des mises en scène qui sont un petit peu contributives avec plein d'entreprises et d'associations qui se mettent ensemble pour fabriquer un petit peu des tableaux végétaux et vivants. Et puis, ben, au cœur de cette grande manifestation, vous avez un petit village des associations où nous serons. Et puis, je donnerai quelques initiations à la greffe durant ce week-end. Et puis, je répondrai aussi avec l'équipe à vos nombreuses questions sur vos vergers et sur le fruit et sur les thématiques que nous aimons à partager. Voilà, ça, c'est ce week-end du 21 au 23 septembre au domaine de Gramont à Montpellier. Que dire de plus pour l'agenda? Oui, la semaine d'après, le samedi 29, nous rejoignons le sympathique petit village de Cazouls-d'Hérault, qui ont un petit festival. Alors, je crois que c'est mené par la municipalité. Ça s'appelle Allô la Terre, ici Cazouls. Nous serons présents avec eux toute la journée. C'est le samedi 29 septembre à Cazouls-d'Hérault. Voilà pour l'agenda de septembre, une petite date encore pour octobre, dans le cadre de la Semaine du Goût, qui est un grand événement national, qui est organisé sur le pays Cœur d'Hérault. Je crois que ce sont les Colibris et le Rassemblement des Foyers Ruraux qui co-organisent cet événement. Ils nous ont demandé de prévoir une petite sortie dans ce cadre-là. Alors, c'est une sortie qu'on fait habituellement depuis quelques années qui s'appelle « Promenons-nous dans les bois à la découverte des fruits d'automne ». Ainsi, nous irons vers la Lise, vers la Corme, vers ces fruits de la forêt que des fois vous ne connaissez pas encore. Alors venez avec nous pour les découvrir lors d'une petite balade champêtre. Ça sera à Saint-Étienne de Gourgas. Le rendez-vous est à 14h à la salle polyvalente. C'est juste après le village, un peu en contrebas sur la droite, sur le parking de la salle des fêtes de Saint-Étienne de Gourgas. Alors ça, c'est beaucoup plus tard. C'est le dimanche 14 octobre à 14h. Voilà pour ce petit agenda de Paysarbres pour les semaines à venir. Je termine en vous souhaitant une agréable fin de soirée et je souhaite que nous nous retrouvions ici sur l'antenne de Radio Lodev le troisième mercredi de chaque mois. En tout cas, nous y serons, ainsi que toute l'équipe de Radio Lodev qui se mobilise pour faire vivre cette radio locale, et je les remercie ici. Voilà. Pour terminer, vous avez vu, j'ai laissé passer un voilà, ouais, j'ai encore des efforts à faire. Mais néanmoins, c'est difficile de s'enlever des tics de langage. C'est intéressant pour ça, la radio. D'ailleurs, si vous vous sentez des envies d'animateur radio, je vous rappelle que Radio Lodev est aussi une association, que comme toutes les associations, c'est un espace contributif, et que si vous avez des projets, vous pouvez venir taper à la porte, vous serez super bien reçu. C'est souriant, c'est dynamique, c'est vivant, c'est votre radio, et c'est aussi vous qui avez la capacité de la faire évoluer avec son temps, avec son siècle, avec vous. Voilà, c'était mon appel pour faire vivre l'association. Pour terminer, une petite chanson. On se quitte une fois en musique avec un remix du groupe Septembre qui s'appelle « Je suis la forêt ». Merci beaucoup de votre écoute bienveillante et au mois prochain.